Coucou la communauté des French learners ou de ceux qui apprennent le français. Je continue la pause café où je reçois des personnalités exceptionnelles et allez sur mon site alissayel.com pour écouter l'entretien en podcast ou aussi pour acquérir le français naturellement parce qu'il y a des ressources, il y a des histoires à écouter, il y a des vidéos exclusives, il y a des textes à lire.
alissayel.com pour acquérir le français naturellement.
Et aujourd'hui, je suis très contente, je suis très heureuse de recevoir Sophie Ruberti. Bonjour Sophie.
Bonjour Alice, merci beaucoup de me recevoir pour votre pause café aujourd'hui.
Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir et de m'entretenir avec vous. Je vous ai rencontré un peu par hasard en fait. On s'est rencontré un peu par hasard sur Instagram dans le monde virtuel.
Exactement. En fait, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais il y a aussi de belles rencontres qui peuvent se faire au travers de ces réseaux sociaux. Et c'est amusant, on a eu l'occasion d'échanger avec, au travers de nos publications respectives. Et voilà, on arrive. Moi, j'aime beaucoup le travail que vous faites pour l'apprentissage du français. Et je pense que le français, comme les autres langues, doit s'apprendre de manière naturelle, en écoutant, en lisant des textes adaptés à son niveau. Et on peut progresser très vite en étant comme dans la vraie vie. Et je crois que vous avez été intéressée par ce que je fais autour de l'art et de la transmission par l'art.
Exactement. J'ai trouvé votre compte Instagram, peut-être grâce aux algorithmes, sans doute. Et je m'en suis servie avec mes élèves. Je me suis servie de quelques-unes de vos publications sur des œuvres d'art pour en parler avec mes élèves. Et c'est vraiment très bien, très intéressant pour comprendre l'art exactement. Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter à
oui,
la communauté?
alors, donc je suis française, j'habite près de Paris et aussi près de Versailles. Donc vous voyez, j'ai la chance d'être entourée de beaux endroits et je suis entre la ville et la campagne finalement. Vous serez peut-être étonnés, mais je n'ai pas fait d'études d'art. J'ai commencé par faire de la finance, puisque j'étais à l'université à Dauphine et au début, j'ai travaillé dans la finance. Et ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'art, et non pas uniquement en tant qu'historienne de l'art, mais parce que j'aime particulièrement transmettre et j'aime faire comprendre surtout que l'art n'est pas réservé à une élite ou à quelques personnes bien formées, mais qu'il nous appartient à tous. Et si nous ne devions retenir qu'une seule chose de cet entretien, c'est celle-ci certainement. L'art nous appartient à tous, même si nous pensons ne rien y connaître. Et puis, j'aime bien voir au travers des œuvres d'art, le talent et le travail des artistes. Et pour moi, le travail et le talent sont deux choses indissociables. C'est-à-dire qu'en fait, on ne naît pas comme ça artiste. Certaines personnes sont plus douées que d'autres, mais il faut toujours du travail par derrière et on le remarque quand on regarde ce que font les œuvres d'art, les sculptures, les peintures, l'architecture. Et c'est vrai que, par exemple, on n'imagine pas un architecte, même s'il est doué, ne pas avoir étudié la résistance des matériaux ou comment structurer un bâtiment. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi ce qui me semble important, surtout pour moi qui vis en France, on est entouré d'œuvres d'art, en fait, on est entouré de merveilles, de se rendre compte, j'aime bien remarquer que l'art est partout. Même dans le plus petit village, en France, on a cette chance-là, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, en particulier européens, où dans le plus petit village, on a au moins un beau bâtiment, généralement au moins l'église, mais il peut y avoir aussi un lavoir, une mairie, une statue au coin des rues. En fait, on est entouré de beauté. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et qui me motive depuis très longtemps de regarder ça. Alors.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'habite maintenant au Portugal et il y a beaucoup de lavoirs encore. Vous parlez des lavoirs.
Oui, oui, oui.
Et ils sont encore utilisés, Sophie.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, parfois, nous passons, nous nous promenons et nous voyons des femmes qui lavent leur linge.
Qui lavent leur linge.
Oui.
Ah oui, c'est étonnant.
Oui.
Ce qui veut dire que le beau peut être aussi dans le quotidien. Et ça, je m'émerveille de le voir comme au cours des siècles, on a pu mettre le beau partout. Et ça, je trouve ça merveilleux et vraiment intéressant de faire connaître et de montrer cette beauté. D'ailleurs, c'est un de mes sujets. J'aime bien quand j'interviens, par exemple, pour des conférences, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est comment éduquer à la beauté. Par exemple, pour des parents ou pour des enseignants, se dire, les parents sentent qu'il faut montrer des belles choses à leurs enfants, mais ils ne savent pas toujours comment faire. Et c'est quelque chose qui m'intéresse.
Donc, vous, vous expliquez aux parents ou aux professeurs comment regarder une œuvre d'art, comment l'expliquer à un enfant?
Oui, par exemple, mais c'est plus large que ça. Alors oui, effectivement, dans une grande partie de mon activité, il y a comment expliquer une œuvre d'art. Alors j'ai commencé il y a quelques années avec en écrivant des articles pour un magazine qui s'appelle Actuel. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça s'écrit comme ça, Actuel. C'est un magazine numérique. Alors je vous le cite parce qu'il est gratuit pour les 10-15 ans. Et donc c'est un magazine d'actualité. Et moi, j'écris la page d'œuvre d'art, de décryptage d'œuvre d'art. Et donc, en une page, j'explique aux enfants, là, c'est directement aux enfants. Voilà, je leur décrypte l'œuvre et je leur explique l'œuvre. C'est tout simple, avec des mots tout simples. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et puis après, j'ai fait ça aussi, mais pour les adultes, sur un site. Sur la version française d'un site international qui s'appelle Aletheia, qui existe dans toutes les langues. Et donc là, je décrypte aussi des œuvres d'art. Et puis, j'ai continué comme ça. Vous voyez, ça se fait. Maintenant, vous pouvez trouver aussi sur un site que j'ai monté qui s'appelle Artelium. Et je l'ai appelé l'art tout simplement. Alors, Artelium, c'est une structure qui propose. J'ai aussi des décryptages d'articles sur ce site, des décryptages d'œuvres, pardon, donc des articles. Et puis, je propose aussi des conférences, comme je vous le disais. Découvrir la beauté et comment regarder une œuvre. Ça, je le fais en France, à l'étranger. Alors là, autant vous dire, vous vous en doutez, Alice, qu'avec la crise sanitaire, tout s'est arrêté. Mais j'imagine que ça va repartir. Et donc, j'interviens où on a envie que je vienne. Voilà. Et en tout cas, je continue. Je continue pour Actuel, pour Aletheia et puis pour Artelium à travailler sur la question des œuvres d'art. Voilà.
Très bien, je vais mettre tous ces liens dans la description de la vidéo en dessous de la vidéo. Oui, vous si pouvez vous retrouver voulez. Tous ces liens parce que c'est vrai que Actuel est très bien. Je pense pour des personnes qui veulent acquérir le français, c'est très bien écrit et c'est très compréhensible pour lire les actualités, oui. ce qui se passe. Il y a aussi des articles sur l'histoire de France et sur l'art.
Sur l'actualité internationale. Oui. Et la particularité d'Actuel, c'est d'être uniquement rédigé par des bénévoles qui sont spécialistes de leur sujet ou qui vivent dans le pays dont ils parlent. Mmh. Et c'est très intéressant parce que même moi, en tant qu'adulte, je le lis volontiers parce que j'apprends beaucoup de choses sur des pays que je ne connais pas et aussi sur des événements dont on parle très peu en France, parce que ça n'est peut-être pas considéré comme le plus important, mais je trouve que c'est très enrichissant. Oui. Et j'aime beaucoup y participer. Et parce que ce sont que des gens qui interviennent parce qu'ils trouvent que c'est intéressant de faire connaître l'actualité et de décrypter l'actualité pour leurs enfants et pour les enfants des autres d'ailleurs.
Oui, voilà. Oui, c'est très bien. Donc je vais mettre tous ces liens et je vais mettre bien sûr le lien vers votre compte Instagram. On vient juste de voir votre tasse, Sophie.
Oui, parce que
vous pouvez nous en parler.
Vous m'avez dit, Alice, que c'était la pause café.
Oui.
Donc, j'en profite pour prendre un. Ce n'est pas un café, mais je bois beaucoup de thé. Et donc, c'est un délicieux thé de chez Angelina. Voilà.
Ah oui, Angelina qui est une institution fameuse à Paris.
Exactement, un délicieux salon de thé où ils font aussi leur propre thé. Mm. Et ils viennent d'ailleurs d'ouvrir un salon de thé à Versailles, dans le château de Versailles. Mm. J'y suis allée il y a 15 jours en famille et on était très contents de redécouvrir Versailles après tant de mois de fermeture et dans des conditions idéales puisqu'il y a moins de monde. Mmh. Alors, bien sûr, nous regrettons que nos amis étrangers ne puissent pas venir, mais en même temps, pour nous, ça permet de venir dans des conditions plus faciles parce que jusqu'à présent, on considérait en tant que Français qu'on ne pouvait aller à Versailles qu'en hiver parce qu'il y avait moins de monde et l'été il y avait trop de monde. Mm. Et là en ce moment c'est plus agréable de le visiter. Et donc on peut aussi en profiter pour aller prendre un thé et manger de délicieux petits gâteaux dans ce salon de thé.
Oui, moi, mes grands-parents habitaient à Versailles, donc j'ai passé beaucoup de temps dans le parc, mais c'est vrai que nous n'allions jamais dans le château parce que, à cause des touristes, trop de monde, nous n'allions pas très souvent visiter le château, en fait. C'est vrai.
Oui. Les Versaillais ne vont jamais au château.
Oui, oui.
C'est bien connu.
On passe du temps dans le parc, et mon endroit préféré, c'était le hameau de la Reine.
Ah, quel endroit délicieux à visiter.
Oui.
Oui, c'est vraiment charmant. J'aime beaucoup. C'est une atmosphère tout à fait particulière. Une sorte de ferme recréée.
Oui.
Très, très, très idéale, très idéalisée. Mais c'est un endroit vraiment, vraiment, vraiment agréable. Oui.
Oui.
Moi, j'aime aussi me promener dans le parc de Versailles. C'est vraiment un bel endroit. On peut faire du vélo
oui.
autour du Grand Canal, faire de la barque sur le Grand Canal. Et donc, c'est un endroit très agréable à visiter. Il y a bien sûr cette merveille qu'est le château, qui est immense. D'ailleurs, on ne visite pas tout, tellement c'est grand. Mais j'aime beaucoup cette, cet endroit qui peut aussi très agréablement se visiter avec des enfants assez jeunes.
Bien sûr. Et il y a aussi le Grand Trianon et le Petit Trianon à voir absolument. C'est superbe avec le marbre rose.
Oui, ce sont des merveilles. Des merveilles d'architecture dans ce très grand parc, parce que c'est un très grand parc. Et on peut lier la visite du château avec aussi un pique-nique en famille,
oui.
Et des activités plus sportives qui permettent aux plus petits de ne pas être trop fatigués par uniquement une visite. Une visite, même s'ils apprécient beaucoup la beauté et la grandeur de la Galerie des Glaces, par exemple, qui est impressionnante et qu'on peut vraiment en ce moment plus apprécier parce qu'il y a un peu moins de monde.
Oui, mais je pense que pour visiter donc le château, il faut au moins compter 2 jours pour le château et le parc. Parce qu'en général, les touristes y vont juste une après-midi. Je pense que ce n'est pas suffisant, en fait.
En fait, c'est un peu comme tous ces grands endroits, comme le Louvre.
Oui.
Pour moi, je vais au Louvre plusieurs assez souvent, puisque je continue à prendre des cours au Louvre. Et je n'ai jamais fini. Je suis peut-être allée 50 fois au Louvre dans ma vie et je découvre toujours des œuvres parce que c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout voir.
Oui. Mais quel cours est-ce que vous prenez au Louvre, Sophie ?
Des cours d'histoire de l'art et des civilisations qu'on peut d'ailleurs, depuis cette année, suivre à distance. Donc, on peut très bien... ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'année dernière, on peut très bien s'inscrire à l'école du Louvre et suivre des cours à distance. Puisqu'en fait, moi, depuis plus d'un an maintenant, je suis les cours à distance. Alors qu'avant, j'allais sur place, hein, bien sûr. Mais donc le Louvre, on n'a jamais fini de le visiter et de le découvrir. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'expositions et beaucoup de départements différents. Mais pour revenir à Versailles, il y a ce qui est aussi merveilleux à faire en famille, c'est les grandes eaux. Les grandes eaux de Versailles, les eaux EAUX, donc ce sont en fait les fontaines qui sont allumées le week-end, l'été, et avec un spectacle extraordinaire qui s'appelle les grandes eaux nocturnes qui ont lieu à la tombée de la nuit. Et c'est un spectacle magique et je pense unique au monde.
Oui, et à l'époque, enfin, quand j'étais jeune, il y avait aussi des pièces de théâtre devant le Grand Trianon, au Grand Trianon. Je suis allée voir Britannicus, par exemple. Je ne sais pas si ça existe encore.
Alors, à Versailles, au mois de mai, depuis des années, existe le mois Molière. Donc, Molière est un auteur de théâtre français du XVIIe siècle, donc qu'on appelle en France le Grand Siècle, qui est aussi le siècle de Louis XIV. Et au cours du mois Molière, il y a des pièces de Molière, bien sûr, représentées dans tout Versailles. Beaucoup sont gratuites dans des espaces publics. D'autres sont faits par des acteurs professionnels dans des pièces, dans des salles, vraiment des salles de théâtre. Mais Versailles vit pendant un mois au rythme du théâtre et de Molière.
Ah, très bien. D'ailleurs, sur mon site, vous pouvez lire l'histoire du bourgeois gentilhomme de la pièce de théâtre.
Le bourgeois gentilhomme, c'est une très belle pièce qui est aussi un ballet. Et donc, cette pièce a été créée pour être en même temps un ballet. On l'a ensuite souvent représenté sans les danseurs et sans la musique comme une pièce de théâtre, mais on retrouve ce plaisir de lier le théâtre et la danse comme on aimait beaucoup le faire à Versailles sous Louis XIV.
Oui, très bien Sophie, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. De découvrir la culture française, l'histoire de France, parce que souvent les touristes ou ceux qui nous regardent sont pour la plupart viennent des États-Unis ou du Brésil, et je pense qu'ils viennent à Paris et ils vont voir un peu la Tour Eiffel dans le Louvre, la Joconde. Et peut-être qu'ils ne savent pas toutes ces choses que nous partageons en ce moment.
Mais c'est normal parce qu'en fait, on a envie de visiter les endroits emblématiques. Voilà. Donc, c'est normal d'avoir envie de monter à la Tour Eiffel. Je pense que je ne suis jamais montée au troisième étage de la Tour Eiffel. Mais ce n'est pas grave. En fait, l'endroit, je pense, où il faut plutôt monter, c'est la tour Montparnasse. Oui. Parce qu'en haut de la tour Montparnasse, on voit la tour Eiffel. Alors que du haut de la tour Eiffel, on ne voit pas la tour Eiffel. La tour Montparnasse est donc permet de, on peut prendre un verre en haut de la tour Montparnasse et profiter d'une vue sur Paris à 360 degrés et c'est un endroit vraiment magique. Alors, pour la Joconde, je comprends parce que ce tableau a une histoire très, très particulière. Je pense qu'elle est particulièrement connue et appréciée par non seulement le fait que ce soit Léonard de Vinci qui l'ait peinte et qu'on dispose maintenant de très peu d'œuvres de Léonard de Vinci, mais aussi par son histoire étonnante. Au début du XXe siècle, elle a été volée au Louvre et pendant 2 ans, on n'a pas su où elle était. Et on a fini par la retrouver roulée sous le lit d'un ouvrier qui était intervenu au Louvre. Et heureusement, elle n'avait pas été du tout abîmée. Et comme c'était déjà une toile déjà très connue au début du XXe siècle, il n'avait bien sûr pas réussi à la revendre. Et elle a réussi à retrouver sa place majeure au sein du musée du Louvre. Mais au Louvre, il y a aussi beaucoup d'autres merveilles de peinture française, de peinture italienne, de sculpture antique, pour ne citer que les départements les plus célèbres. Mais on peut aussi aller se perdre dans toutes ces salles qu'on nous propose. Je pense en particulier au salon Napoléon III, qui sont entièrement décorés et aménagés avec le mobilier d'époque. Et c'est aussi très intéressant d'aller découvrir cette partie-là du Louvre, peut-être un peu moins connue à l'étranger.
Oui, cela me rappelle que mes enfants ont visité le Louvre avec leur tante et ces appartements, enfin, ces pièces ont marqué mes enfants.
Ils étaient beaucoup de traits dorés, rouges, des sièges, d'extraordinaires sièges recouverts de ce très beau velours d'un rouge qu'on dirait cramoisi. C'est vraiment étonnant. Et puis moi, j'aime bien. Ça m'arrive parfois d'aller au Louvre simplement et de me laisser emporter, de me perdre un peu et de simplement pour redécouvrir des endroits différents. On a aussi de très belles pièces de Mésopotamie. Et voilà, je pense qu'il faut... Alors là, on peut y passer des jours, effectivement, mais il faut avoir de bonnes jambes. Que c'est très fatigant d'aller se promener au Louvre. Oui. Je peux aussi vous parler d'un musée qui vient de rouvrir, qui pourrait intéresser vos élèves et auditeurs. Il s'agit du musée Carnavalet. Donc, c'est le musée de l'histoire de Paris. Je l'avais visité il y a peut-être 20 ans ou 25 ans. Et c'est un musée très poussiéreux, très vieillot, avec beaucoup d'objets différents. Et le musée a fermé pendant 4 ans pour une restauration et une rénovation complète. Et je suis allée le visiter hier. C'est un musée énorme aussi. On n'a pas pu tout voir de manière approfondie, mais il raconte bien l'histoire de Paris. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on avait aussi bien des objets remarquables que des objets du quotidien. Par exemple, il y a 2 salles consacrées aux enseignes de magasins. Alors, les enseignes, ce sont ces signes qui étaient posés devant les boutiques pour que l'on sache où était le boucher, le serrurier, le forgeron, et qui souvent avaient la forme de l'objet qui a été fabriqué ou vendu dans le magasin ou l'atelier qu'il représentait. Et ce sont des souvenirs et des témoignages très intéressants de la vie de Paris dans les siècles précédents.
Oui. Ah, très bien.
Et oui, c'est vraiment un musée passionnant. Donc, il a rouvert, je crois, le mois dernier. Et il mérite vraiment qu'on y passe. On peut y passer beaucoup de temps si on a envie, mais même un peu de temps pour découvrir ce qu'a pu être la vie à Paris. Il y a aussi la reconstitution d'intérieur. C'est même pas la reconstitution. On a récupéré dans d'anciens hôtels particuliers. Donc, les hôtels particuliers, ce sont les maisons des nobles ou des bourgeois parisiens riches. On a récupéré des boiseries qui ornaient les murs et on a réutilisé ces boiseries pour que le visiteur puisse comprendre et voir l'atmosphère de ces très belles demeures.
Cela doit être superbe, je pense.
C'est magnifique. Vous verrez que certains styles vous plairont peut-être plus que d'autres. Il y a certains sont de couleur pastel, d'autres sont avec beaucoup de doré, des sculptures plus ou moins travaillées. Et donc, on découvre différents styles, différentes époques. On a même certaines pièces qui sont entièrement peintes avec des figures différentes, mythologiques, religieuses. Parfois, on est juste avec une seule couleur. Et c'est extrêmement varié. On voit l'évolution des goûts et c'est, je trouve, très intéressant pour comprendre et apprécier la vie parisienne.
Et où se trouve ce musée, Sophie ? Dans quel arrondissement ?
Il est situé dans le 3e arrondissement, qui est le quartier du Marais, qui est un des quartiers les plus anciens de Paris et qui a encore conservé de très beaux hôtels particuliers, de beaux bâtiments. Et c'est vraiment un quartier ancien dans lequel il est agréable de se promener.
Oui, très bien. Là, c'est vraiment passionnant. Vous nous faites faire une visite de Paris, une visite virtuelle. Merci beaucoup, Sophie. Je voulais aussi parler de votre livre, parce que vous avez écrit un livre et publié un livre « Apprendre à voir ». On en parlait au début de notre entretien, pour apprendre à regarder des œuvres d'art. Il est destiné aux enfants, n'est-ce pas? Mais même pour moi, il est passionnant.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Il est écrit pour d'abord pour des enfants, mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'adultes le lisaient avant de l'offrir à leurs enfants, à leurs neveux, leurs filleuls, leurs petits-enfants, et qu'ils trouvaient dans ce livre beaucoup de choses qui pouvaient les intéresser, parce que le livre permet de découvrir avec des mots simples comment regarder une œuvre d'art. Et en fait, je pense que c'est là qu'est résumé tout mon travail, cette idée de trouver les mots simples et justes pour parler des œuvres. Parce qu'en fait, pour moi, je ne cherche pas l'érudition. Alors, l'érudition, c'est quand on sait beaucoup de choses sur des sujets particuliers, mais je cherche d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'art est fait pour tout le monde, parce qu'en fait, il est accessible à tous. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir en parler avec des mots simples, par l'observation. C'est-à-dire que dans mon travail, je pars d'abord de l'observation et je regarde les œuvres. Et le fait de pouvoir regarder est accessible à tous. Et donc, c'est pour ça que l'art est accessible à tous. Parce oui. qu'en fait, il s'agit de regarder et de voir ce que nous dit l'œuvre. Parce que je pense que l'œuvre parle d'elle-même. C'est l'œuvre qui nous dit des choses par le travail de l'artiste qui nous montre des choses et on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour comprendre ce qui est dit dans une œuvre d'art.
D'accord. Oui. Et dans ce livre, donc, il y a différentes œuvres, des sculptures, des peintures. Et vous les expliquez, comme vous dites, comme vous l'avez juste mentionné, vous l'expliquez. Et nous avons sélectionné deux œuvres qui oui. sont dans ce livre, n'est-ce pas ?
Oui.
Et que vous avez eu la gentillesse de nous expliquer maintenant, de bien vouloir nous présenter
oui, on va les
l'œuvre.
On
maintenant.
Va les regarder. On va les regarder mmh. ensemble. Alors, généralement, je vais continuer à parler.
Oui,
quand je fais un atelier ou une conférence, en oui. fait, ce sont les participants qui décrivent l'œuvre. Ah. Parce que je pense que c'est. Parce qu'en fait, on a en soi-même la capacité de regarder et de voir ce qu'il y a sur un tableau. Alors on va la regarder, mais là cette fois-ci c'est moi qui vais parler, hein. je suis bien obligée, vous me faites travailler Alice, normalement je vais faire le travail par les autres. Alors ici il s'agit d'un tableau, une huile sur toile, qui est une œuvre de Georges de la Tour. Georges de la Tour est un peintre français du XVIIe siècle. Alors, on se retrouve dans le XVIIe de Louis XIV, finalement, puisque Georges de la Tour, la date que vous avez mise ici, c'est la date de l'œuvre.
En fait, je viens juste oui. de me rendre compte, que j'ai fait une erreur. J'ai oublié le S à Georges. Je le rajouterai
exactement.
Après.
Voilà.
George, je suis désolée.
George sans S est anglais, mais je vous confirme que Georges de la Tour est français. Et donc, le tricheur à l'as de carreau. Alors, un tricheur, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Et regardez ici. On est autour d'une table de jeu et on joue beaucoup d'argent. Comment sait-on que l'on joue beaucoup d'argent? Parce qu'il y a des pièces d'or sur la table. Il y a quatre personnages. Le tricheur à gauche, qui est en train de sortir un as de carreau de sa ceinture, et donc as qui va lui permettre probablement de gagner au jeu. Vous avez une femme richement vêtue qui est en face de nous, au-dessus d'elle une servante, et à droite un jeune garçon qui est très richement habillé et qui est un peu naïf et qui est en train de se faire avoir, comme on dit, c'est-à-dire, en fait, il se fait duper, il se fait tromper. Et donc, on va regarder un petit peu plus, d'un peu plus près, oui, ce qui se passe.
Là, vous...
Voilà.
Ah, là, j'ai regardez. Mis le S à Georges.
Ah, ben, il a de la chance, Georges.
Il a de la chance.
Voilà. Regardez le jeu de main à droite, avec ces quatre mains qui se trouvent dans une toute petite surface, et on a énormément de choses qui sont montrées. Vous avez la main du joueur avec les cartes, la main de la femme qui montre quelque chose. Elle a un bracelet de perles. Elle porte un bracelet de perles. Et derrière elle, la servante qui tient de la main droite un verre rempli de vin. Et remarquez comment Georges de la Tour montre la transparence de la boisson. C'est incroyable. Et de l'autre main, elle tient une bouteille couverte d'osier. C'est la bouteille qui permettait de contenir le vin. Alors, elle est recouverte d'osier parce que cela permettait de conserver le vin à l'abri de la lumière et donc de le conserver plus longtemps. Et puis regardez à gauche ce travail des perles autour de la main de la joueuse. Elle a un très joli vêtement. Est-ce qu'on peut revenir en arrière à l'image précédente, s'il vous plaît, Alice?
Voilà. Oui.
Regardez les... On va détailler un peu les vêtements. La femme qui est en face de nous a une très riche robe de velours et l'artiste arrive à nous montrer la qualité de l'étoffe. Le jeune homme à droite a un vêtement très riche. Il montre vraiment sa richesse. C'est brodé d'or et d'argent. Un travail de très grande qualité.
J'ai aussi un détail sur ce personnage. Vous voulez le voir ?
Non, on le verra après.
D'accord.
Parce que là, on va regarder aussi les jeux des regards. Alors, les regards ne se croisent pas. Vous avez le tricheur qui regarde ailleurs, comme si de rien n'était, comme s'il ne se passait rien, qu'il était totalement innocent. Et d'un geste tout naturel, il va prendre cette carte. La servante le regarde. Et la femme qui est en face de nous avec ce beau bonnet à plumes regarde le tricheur ou peut-être la servante. Et le naïf regarde le jeu, regarde ses cartes et regarde ce qu'il va jouer. Et tout ce jeu de regard nous fait comprendre que les trois personnages de gauche sont certainement complices tous les deux. Ils jouent ensemble. Ils savent. C'est la joueuse sait que le tricheur va lui donner la bonne carte dont elle a besoin. Et on va faire un zoom sur le personnage de droite.
Oui.
Voilà. regarder. Alors, il a le regard benêt, c'est-à-dire un peu bête, un peu naïf. Et il est très fier de sa richesse, mais il ne se rend pas compte que l'exposition de cette richesse donne envie aux autres de le plumer, de le voler, de le flouer. Et on peut regarder à droite le détail de son vêtement, tout brodé avec cet extraordinaire travail. Moi, j'imagine les brodeuses qui ont dû passer des jours et des jours à faire cet extraordinaire travail de broderie. Et les jolis rubans qui viennent orner la chemise. Vous voyez là aussi un joli chapeau à plumes. Et remarquez sur l'image de gauche la manche de la chemise, le drapé qui est fait, ce travail de l'artiste qui rend très bien compte du pli que fait le tissu, l'étoffe, sur cette chemise. Voilà ce que l'on peut dire sur ce tableau, sur ce très bel ensemble de quatre personnages. Alors, ce tableau, il est au musée du Louvre. Ce n'est pas le plus connu du Louvre, mais il a quand même beaucoup d'importance. Georges de la Tour est un artiste très apprécié et reconnu.
Oui, il est magnifique ce tableau, je trouve. Oui. Et nous avons choisi un autre tableau plus emblématique. Louis XIV, roi de France.
Voilà. Alors, ce Louis XIV, il illustre souvent Louis XIV dans les livres d'histoire. Il illustre, oui. C'est l'image qui est reprise pour montrer le siècle de Louis XIV. Alors, le roi, qu'on appelait aussi le roi soleil, est présenté comme dans un décor de théâtre avec ce très beau rideau rouge. Alors, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de pièce à Versailles ou au Louvre avec un grand décor comme ça, comme celui-là, mais c'est une mise en scène pour bien illustrer le propos. Le rouge, depuis l'Antiquité, est le symbole du pouvoir. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on encadre le roi de France avec ce très beau tissu rouge dont vous pouvez admirer les reflets. Donc, c'est rouge et avec des broderies dorées.
Ah, moi, je pensais qu'il était dans sa chambre, Sophie, et que derrière, c'était son lit à baldaquin avec le...
Non, parce que le baldaquin, vous pourrez regarder, d'ailleurs c'est intéressant de regarder la chambre du roi, on n'a pas ce côté un peu fouillis, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus, les plis sont bien marqués, etc. Donc c'est vraiment une mise en scène un peu théâtrale, et on n'est pas dans une chambre, on est dans plutôt une salle du trône, puisque vous avez derrière le trône recouvert de fleurs de lys, et la fleur de lys est depuis très longtemps le symbole à la fois en France de la royauté et de la France aussi. D'ailleurs, vous voyez là, oui, c'est une forme de fleur de lys qui n'est pas la même fleur de lys que celle de Louis XIV. Qui est représenté donc avec son manteau de sacre. Son manteau de sacre, c'est un grand manteau doublé d'une fourrure d'hermine. L'hermine, c'est une petite bête qui a donc ce tissu, cette fourrure, ces poils blancs avec les des taches noires, quelques petites taches noires. Et comme c'est extrêmement précieux, extrêmement rare, c'est vraiment réservé au roi ou à la famille princière. Et donc, l'extérieur est en velours brodé de fil d'or et l'intérieur en velours d'hermine. Alors, vous remarquerez que le roi porte une perruque assez volumineuse, assez significative et que l'on portait beaucoup à l'époque. Il est représenté avec son vrai visage parce que Louis XIV avait souhaité être représenté tel qu'il était. C'était un portrait qu'il destinait à son petit-fils, mais il a tellement plu qu'il a été reproduit à de nombreux exemplaires et vous pouvez le retrouver un peu partout dans le monde.
Mais qu'est-ce Alors, que vous voulez dire par son vrai visage, Sophie ?
C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas cherché à l'embellir ou à le rajeunir. Parfois, vous savez, c'est comme dans les photos.
Oui.
La photo de... Mais on est tous pareils.
C'était le Photoshop de l'époque.
Les peintres faisaient un peu du Photoshop. Quand on met une photo de profil, on ne choisit pas la photo où on sort du lit, où on a les traits tirés, où on a mal dormi et où l'éclairage est blafard. Donc, on choisit son meilleur profil, on s'arrange un peu, on peut mettre un filtre et les artistes peuvent choisir de représenter, les peintres peuvent choisir de représenter leur sujet, leur modèle, sous leur meilleur jour, c'est-à-dire sous un aspect qui les met en valeur. Et donc là, il a choisi d'être représenté tel qu'il était en réalité. Et donc, un homme d'âge mûr qui est représenté, en revanche, avec de très belles jambes, des jambes de jeune homme plutôt. Mais moi, je me demande, alors peut-être était-ce la réalité, mais je me détaille. Voilà, vous remarquerez les chaussures à talons rouges. Mais ces très belles jambes, en fait, Louis XIV était un très grand danseur, mais d'un niveau professionnel. Et d'ailleurs, à la cour, tout le monde dansait. Et donc, les spectacles de danse étaient donnés aussi bien par des professionnels que par des amateurs, des nobles. Et même la famille royale et même le roi. Et le roi était un très grand danseur. Donc voilà, il a peut-être gardé ses belles jambes de danseur.
Et puis à l'époque, on marchait beaucoup, il faisait aussi beaucoup de cheval. Enfin, je pense qu'à l'époque, on était plus sportif que de nos jours, moins sédentaire, disons.
Oui. Et donc, il portait des bas, vous voyez, des bas de soie. On peut revenir en arrière parce que je voudrais vous montrer ce qu'on appelle les régalia, qui sont les objets qui représentent le pouvoir royal. Donc, on a l'épée, voilà, qu'il porte aux côtés, le sceptre, qu'il porte d'ailleurs à l'envers, la couronne. La couronne qui est derrière juste derrière le sceptre.
Ah oui.
Vous avez la couronne avec le velours. Et à droite de la couronne, on a ce qu'on appelle, on le voit mal. C'était bien là où vous étiez. De l'autre côté, à droite, avancez, continuez, voilà, tac, tac, ici.
Oui.
On ne voit pas très bien. Ça s'appelle la main de justice. Et ça représente le pouvoir judiciaire du roi. Voilà, donc on a à la fois son pouvoir militaire, son pouvoir face à la justice, son pouvoir qu'il reçoit de Dieu. Voilà cette belle représentation.
Comment vous voyez que le sceptre est à l'envers ? Pourquoi vous dites que le sceptre est à l'envers ?
Parce qu'il a normalement la partie où il y a la fleur de lys qui est en bas est plutôt portée en haut, mais
Ah.
c'est fait pour être portée au milieu. Voilà. Mais je pense que
D'accord.
ça devait aussi pouvoir se porter dans ce sens-là. Voilà ce que je pourrais dire de ce tableau qui a eu beaucoup de succès. Et ce que je voudrais rajouter, donc on a vu Versailles, on a vu Georges de la Tour, et on voit ce tableau de Louis XIV. En fait, Louis XIV était vraiment a vraiment soutenu les arts, tous les domaines de la culture. Il a protégé les artistes, les architectes, les peintres, les sculpteurs, les musiciens. Même les jardins de Versailles sont une merveille avec le nôtre. Et en fait, il était protecteur des arts et on dit même qu'à l'époque de Louis XIV, aucun artiste n'était sans travail. Il y avait toujours du travail pour tous les artistes, tellement il a fait de projets. On pense à Versailles, mais je pense aussi aux Invalides,
Oui.
puisqu'on parlait de Paris tout à l'heure. L'hôtel des Invalides, alors il y a une très belle chapelle, qui s'appelle, une église même qui s'appelle Saint-Louis, mais en fait, il a créé les Invalides pour les gens qui étaient invalides de guerre, c'est-à-dire ceux qui étaient devenus handicapés suite au combat qu'ils avaient mené, des soldats. Et Louis XIV ne voulait pas que ces soldats qui avaient combattu pour la France soient vivent dans la misère ou soient obligés de mendier pour vivre. Et donc, il a créé cet hospice. Cet hôpital pour ces soldats. Et d'ailleurs, il était très aimé de ces soldats, même si c'était beaucoup, beaucoup battu.
Oui.
Mais il y a aussi ce très bel. Et c'est un endroit très beau, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, on n'a pas forcément besoin pour des malades de magnifiques hôpitaux. Eh bien, lui a voulu que ce soit un endroit magnifique.
Oui.
Maintenant, c'est toujours un endroit qui reçoit des personnes invalides, souvent d'anciens militaires, mais c'est aussi le bâtiment qui contient le musée de l'armée, qui est un très beau musée à Paris.
Oui, je vais arrêter de partager. C'était très intéressant. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'habitais juste à côté des Invalides. Et donc tous les jours, j'allais à l'école et je passais devant les Invalides. C'est magnifique. Le dôme est doré maintenant.
Oui.
Et c'est un endroit à visiter. Il y a aussi, bien sûr, la tombe de Napoléon.
Napoléon, oui,
À voir.
dont est célébré le 200e anniversaire de la mort cette année, en 2021.
Exactement. Et vous parlez des hôpitaux. C'est vrai que de nos jours, les hôpitaux sont des bâtiments plutôt, je dirais, affreux. Enfin, pas très,
Pas
on n'a pas
toujours très
très
beau, oui.
envie d'y aller. Mais les Invalides, oui. Ou il y a aussi l'Hôtel Dieu, enfin,
Oui.
qui est
D'ailleurs,
beau.
oui, c'est intéressant. Alors, l'Hôtel-Dieu, c'est intéressant parce qu'en fait, il est le signe d'une tradition très ancienne. Il est tout à côté de Notre-Dame. Et quand on construisait une cathédrale, on construisait toujours à côté un hôtel-Dieu pour les malades. Parce qu'en fait, l'Église avait le souci des âmes. Donc, on créait l'Église pour célébrer les offices religieux, mais aussi le souci des corps. Et donc, construisait systématiquement à côté un hôtel-Dieu. C'est pour ça qu'il y a des hôtels-Dieu un peu partout. Et dans les très beaux hospices ou hôpitaux, je pense aussi aux hospices de Beaune. Vous pouvez regarder sur Internet les hospices de Beaune. Ça se situe en Bourgogne et c'est merveilleusement beau, avec de très beaux toits en tuiles vernissées. Mmh. Ce sont des tuiles de couleur qui forment des motifs. Et c'est magnifique.
Merci beaucoup, Sophie. C'est passionnant et c'est passionnant, mais en même temps, comme vous l'avez dit, c'est simple en fait. Là, vous venez juste de décrire deux tableaux de manière, en réalité, de manière simple et compréhensible.
Oui, je pense que c'est franchement, j'essaie en tout cas de faire comprendre et de montrer. Alors, au début, c'est bien d'être un peu aidé dans sa manière d'orienter son regard, mais je pense que on peut le faire. Alors, c'est vrai que le livre peut aider pour bien comprendre et bien décrypter. Mais le premier regard est peut-être assez simple. Mais il faut accepter de prendre le temps de regarder. Je conseille souvent, quand on va au musée, de ne pas vouloir regarder trop d'œuvres parce qu'on ne voit plus. Quand on a passé 3 heures dans un musée, on ne voit plus rien et on ne voit plus l'essentiel. Et quand j'emmenais mes enfants petits au musée, je choisissais souvent une ou deux œuvres et on passait un certain temps devant ces quelques œuvres. Après, on regardait un peu autour, mais le principal pour moi était de leur ouvrir le regard sur quelque chose, pas trop, mais de surtout ne pas les dégoûter. Quand on en voit trop, on est à saturation.
Oui.
Et on ne voit plus. Je vous donne un exemple. Hier, donc j'étais au musée Carnavalet et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux plus. Je sature, c'est-à-dire que le cerveau, le regard ne peuvent plus absorber si on voit trop de choses. Alors, si c'est trop de belles choses, c'est très bien. Mais je pense que quand il vaut mieux faire des visites pas trop longues pour plus apprécier, mais regarder plus longtemps les œuvres qu'on a choisies.
Oui, c'est très vrai, c'est très juste. Il faut choisir quelques œuvres. Mais par exemple, pour le cas du portrait de Louis XIV, il faut aussi quand même connaître l'histoire et il faut avoir une certaine culture, par exemple, pour savoir que les symboles du roi, le sceptre.
Alors, oui, c'est vrai, mais même si on ne connaît pas ces éléments-là, on peut déjà regarder ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Et donc, par exemple, regarder le tissu autour, on voit bien que c'est comme le rouge des rideaux de théâtre. Enfin, avant, très souvent, les rideaux de théâtre étaient rouges. On peut regarder la manière dont le roi est habillé. Et pour préparer une visite, on peut aussi, par exemple, une visite au Louvre, on peut d'abord lire les commentaires sur le livre. Comme ça, on a déjà à l'esprit un certain nombre d'éléments ou de choses qu'on pourra regarder. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir pris le temps d'écouter des conférences, etc. Tout le monde ne le peut pas. Mais on peut aussi partir du livre si on veut avoir quelques bases. Mais à force de prendre l'habitude de regarder, eh bien, on retrouve des choses communes. On retrouve des éléments qui sont les mêmes d'un tableau à un autre. Et c'est comme ça que se forme le regard et que se forme la culture aussi. La culture que l'on peut avoir sur un pays, sur une époque, sans être spécialiste du tout.
Exactement, oui. Et là, par exemple, encore dans le cas du portrait de Louis XIV, vous nous avez donné un portrait, je trouve, très positif de ce roi. En France, nous avons, enfin, c'est à l'école, on nous apprend que ce roi était quand même très arrogant, le roi Soleil. Et là, vous nous avez dit qu'il voulait montrer son visage, son vrai visage, donc il n'était pas si arrogant, peut-être.
Je
Et vous
pense
dites
que
qu'il était aimé des soldats, donc c'est bien d'avoir aussi différents points de vue parce que parfois on a un point de vue de l'histoire qui est un peu subjectif aussi.
alors, je pense que il faut remettre dans un contexte
Oui.
où il était quand même en charge d'un pays entier, qui était un très grand pays pour l'époque, le plus peuplé d'Europe. Mais l'arrogance, c'est quoi? Parce que si on regarde nos dirigeants actuels, moi je ne me prononce pas, mais je pense que le sentiment qu'on est quelqu'un d'important est partagé au-delà des siècles. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'il faut penser à ça. Et en même temps, ce souci que j'ai évoqué avec les invalides, ce souci de ces malades, c'était important. Ce souci d'apporter en fait, de montrer la grandeur de la France au travers des arts, c'est quelque chose dont on profite maintenant
Bien
encore.
sûr.
Donc, Versailles, Cité des Invalides, mais il y a le Val-de-Grâce, il y a énormément d'endroits où il a laissé sa marque, et nous, que l'on soit français ou que l'on soit touriste, venu visiter la France, on se rend compte de l'importance du rôle qu'il a pu avoir et dont on bénéficie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, la France sans Versailles, c'est quand même pas la même chose. Voilà, donc il faut voir aussi ce qui est apporté par chaque roi, par chaque gouvernant, par chaque époque. Est-ce que ça a été constructif? Est-ce que ça a été destructeur? Je pense qu'on peut voilà, aller plus loin que juste l'image. Alors en français, on parle d'image d'Épinal,
Oui.
c'est-à-dire la ville. À propos, on dit une image d'Épinal, c'est un peu un cliché. Et un cliché qui ramène aux images qui étaient imprimé dans la ville d'Épinal et qui étaient des images assez simplifiées qui ont eu beaucoup de succès, qui étaient distribuées partout. Mais elles les étaient un peu simplificatrices. Et donc, l'image d'Épinal, il faut toujours la rectifier. Et donc, cette image qu'on peut avoir en tête, on parle de royauté absolue. En fait, elle n'est pas du tout absolue, dans la mesure où le roi n'avait pas les moyens de communication qu'on peut avoir maintenant. Pour traverser la France, il fallait plusieurs jours. Donc, avant qu'une décision du roi ne parvienne aux extrémités de la France, il n'y avait pas la rapidité d'Internet. Donc, en fait, cet absolutisme, il est relatif et en tout cas très éloigné, par exemple, sur le pouvoir de police et le pouvoir de décision, il était bien plus faible que celui qu'on peut avoir en France, ou en Europe ou partout dans le monde, maintenant.
Oui. Enfin, on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures,
Très
c'est
longtemps.
passionnant. Mais on va quand même, ça commence à, on va quand même essayer d'arrêter maintenant notre conversation. Sophie, vous vouliez recommander un livre qui me paraît
Oui.
très intéressant, un autre livre sur l'art aussi, pour comprendre
Alors, j'ai
l'art.
choisi Les couleurs de notre temps, qui est écrit par Michel Pastoureau. Michel Pastoureau est un historien de l'art qui a beaucoup travaillé sur l'héraldique, c'est-à-dire l'art des blasons, sur les figures représentées au Moyen Âge sur les blasons, les formes, les personnages, les petits objets qui rentrent dans la composition des blasons, des emblèmes. Et c'est un spécialiste de la couleur. Et j'ai trouvé que ce livre était intéressant parce que si vous apprenez le français, vous pouvez utiliser les articles parce que c'est présenté par article. C'est très bien. Oups là, pardon. C'est très bien illustré. Et par exemple, voilà, je prends la page du rouge. Il vous explique la symbolique du rouge et des objets et sa place à travers l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le rouge? Ben, le rouge, c'est une couleur qui était difficile à teindre. Donc, c'est un vêtement très riche. Le rouge, c'est l'interdiction, par exemple. Par exemple, l'interdiction de circuler dans la signalisation routière. C'est aussi un signe qu'on corrige au stylo rouge. Voilà. Alors, autre exemple, le bleu, blanc, rouge. Voilà, qui est donc le drapeau français. D'où viennent ces couleurs et d'où vient cette alliance de couleurs? Et c'est intéressant aussi parce que donc les articles, vous voyez, ne sont pas trop longs. Là, oui. Par exemple, la nuit. Quelle est la couleur de la nuit? C'est très difficile à dire. Voilà. Et donc, il y a tout un travail de recherche qui permet aux étudiants de français de à la fois développer leur vocabulaire et aussi d'apprendre plein de choses, par exemple sur le jean, sur la couleur jean. Donc c'est un bel ouvrage culturel, voilà. Donc Les couleurs de notre temps de Michel Pastoureau.
Très bien, je vais aussi le mettre dans la description. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, mettez dans les commentaires si vous appréciez l'art, si vous avez visité Paris, le musée du Louvre, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué au musée du Louvre? Est-ce que vous êtes allé au château de Versailles? Partagez dans les commentaires de la vidéo.
Oui, ce sera intéressant pour Alice d'avoir votre retour, et puis pour moi aussi, parce que je regarderai. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou aussi m'écrire sur mon compte Instagram. Je réponds toujours.
Oui.
Donc, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Et en tout cas, voilà, on n'a jamais fini de découvrir.
Bien sûr. Je vous remercie, Sophie, d'avoir partagé votre passion, je pense. Vous êtes passionnée d'art, votre passion pour l'art et pour l'histoire. Et est-ce que vous avez un mot de la fin ou une citation ou pour terminer cet entretien?
Moi, je voudrais juste dire, ouvrez les yeux, le beau est partout. Voilà,
comme c'est ça. Magnifique.
Je pense que ça, même dans la nature, il faut vraiment apprendre à voir et à regarder.
Et surtout en ces temps difficiles, terminer par cette citation, le beau est partout. C'est magnifique.
Ouais, ouais. Voilà, il faut savoir le trouver et le regarder.
Exactement. Merci beaucoup, Sophie.
Merci Alice de votre invitation. J'étais très touchée et c'était un moment très agréable.
Moi aussi, j'étais ravie de vous avoir. C'était un moment très agréable et passionnant pour moi aussi, pour tout le monde, je pense, qui vont nous regarder. Merci et à bientôt, Sophie.
À bientôt. Au revoir, Alice.
Au revoir.